grève en cours de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Vous écoutez Voix de fait. À la lumière du dernier budget, qui sème la misère récolte la colère.
Hey, bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, comme le soulignait
Marie-Ève Rancourt.
La camarade Marie-Ève Rancourt. J'avais Marie-Ève, puis j'étais comme Marie-Ève, comment déjà? Marie-Ève Rancourt. Donc, c'est l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bon, on peut pas passer à côté du mouvement étudiant, bien évidemment. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler aussi un peu, mais pas trop, d'élections fédérales. Et on a une sélection de nouvelles internationales.
C'est ça, c'est plusieurs nouvelles internationales qui sont sorties cette semaine. C'est premièrement, il va y avoir Walmart qui s'est fait comme un gigantesque recours collectif. Aussi, il y a la CDE qui déporte de la moyenne du Canada par rapport à la lutte contre la corruption. Aussi, il y a Troy Davis qui va être exécuté malgré des doutes de sa culpabilité. Un rapport de l'Institut national sur la baisse des exécutions en 2010. Puis aussi, Hugo Chavez qui apporte son soutien au dictateur syrien.
Tout ça dans la prochaine heure en compagnie de Nicolas.
Et Janie.
Et François.
Et nous dédions cette émission aux camarades du Frappru qui, en ce moment même, sont en train d'accueillir Stephen Harper. U.S. qui l'accueille déjà.
Dollars des Ormeaux.
Dollars des Ormeaux. Il y a une ligne de flics en face du centre communautaire, puis une couple de locataires devant, une quarantaine. Alors, voilà.
Et le thème, c'est des logements et pas et moins d'avions militaires.
Oui, des logements, moins d'avions.
Et on va écouter une pièce parce que, ben, voix de fait, c'est aussi de la musique.
Eh oui, des fois.
Et puis, je voulais passer une pièce du groupe Break Syndical parce que demain, ils vont jouer au Planagua. Break Syndical, c'est entre autres un gars qui s'appelle Pierre Fournier, un gars par ailleurs bien sympathique. Puis, essentiellement, lui, il reprend des chansons ouvrières québécoises.
Oui, internationales aussi.
Internationales. Et la pièce qu'on va écouter, c'est une pièce qu'il m'a envoyée qui s'appelle L'étranger. Vous êtes à Voix de fait.
Portugal, de France ou d'Haïti. Souvent mordus par la misère, ils sont exilés de leur terre, exilés, opprimés, surveillés. On est toujours étranger d'un pays ou de quelqu'un, mais il y a étranger, étranger. Dans notre très beau pays, voyons des démocraties. On ouvre une porte aux étrangers. De l'Italie, ou du Chili, du Portugal, de France ou d'Haïti. Souvent mordus par la misère, ils sont exilés de leur terre, exilés, opprimés, sous-payés. La loi lors de la répression écrase de plusieurs façons, mais Walpert, le Texplitch, c'est un champion. Après avoir leur goûté, les travailleurs immigrés, ils ferment la boutique sans négocier. De l'Italie, ou du Chili, du Portugal, de France ou d'Haïti. Souvent mordus par la misère, ils sont exilés de leur terre, exilés, opprimés, sous-payés. Oh, ils se souviennent très bien comment ils ont été happés. à la lutte de classe l'an dernier. Mais décidés à lutter, ils se sont organisés. Cette histoire n'est pas terminée. De l'Italie ou du Chili, du Portugal, de France ou d'Haïti, souvent mordus par la misère, ils sont chez eux sur cette terre, opprimés mais décidés à gagner. De l'Italie ou du Chili, du Portugal, de France ou d'Haïti, souvent mordus par la misère, ils sont chez eux sur cette terre, opprimés mais décidés à gagner.
Et hey, de retour à Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Il est où ce charmant monsieur demain?
Au plan Nagua, il va être là vers environ, il va avoir un 5 à 7 et donc il devrait jouer à mon avis vers 6-7 heures, là, ça va être le groupe Break Syndical.
Plan Nagua qui est toujours situé sur la première avenue dans Limoilou.
Exactement.
Hey, écoute, c'est difficile de passer à côté du mouvement étudiant en ce moment. J'ai fait un calcul rapide la semaine dernière, il y avait 6 occupations et cette semaine, il y a au moins 3 actions. Sinon plus. Donc bien évidemment, on n'était pas capable d'être aux 6 occupations parce que c'est aux 4 coins du Québec, mais vraiment. Donc, bon, on en a ramené une. Jeudi dernier, toi, il y avait 3 actions en même temps, dont une à Québec, et t'étais là.
Exactement, et on va entendre un petit reportage là-dessus. Alors, le mieux, c'est de laisser la voix aux étudiants. Alors, laissons-les parler.
On est actuellement dans le hall d'entrée du complexe G. Une vingtaine d'étudiants qui viennent d'occuper le hall. Ils sont assis par terre et puis ils scandent des slogans.
On n'est pas de ça, des vies.
Allez, pourquoi t'es ici?
Je suis là contre l'émission du gouvernement Charest, contre les hausses des frais scolarité. Parce que pour ça, une excitation, justement, qui augmente autant les frais scolarité sans même considérer d'autres options possibles.
Et vous êtes de quelle institution?
On est une quinzaine du cégep Garneau et on est 5 de Lévis-Lauzon.
Pourquoi t'es là?
Parce que je veux pas justement que ce soit toujours les mêmes qui aient accès à l'université. Puis déjà, je viens d'une famille pauvre, puis ça a tout de suite que je puisse entrer au collégial parce que ma mère elle a 3 enfants. Les prêts et bourses du gouvernement, ben c'est pas assez. Une fois que mes médicaments sont payés pis tout, il me reste 100$ pour vivre. Fait que j'imagine que pour quelqu'un qui vient d'une famille encore plus pauvre que moi, accéder à des études supérieures, c'est quasi impossible. Que si, en plus, après l'augmentation des frais de scolarité, ben, ça va augmenter le phénomène encore. Alors, je veux pas que ça soit toujours les mieux nantis qui accèdent aux études supérieures.
Et toi, est-ce que tu as l'intention d'aller à l'université?
Oui.
Dans quel domaine?
Philosophie.
Et est-ce que justement la hausse des frais, est-ce que ça a influencé peut-être ton choix?
Ben oui, un peu, parce que présentement, ben, je commence déjà à m'endetter beaucoup. Puis.
On parle de quel montant?
Je fais 6 000 par année avec les prêts et bourses, là. Fait que au terme de mes études collégiales, je vais être endetté de 18 000.
Là, on parle juste d'études collégiales, on parle pas encore d'université. Non, là.
C'est ça,
combien t'estimes à peu près? Est-ce que tu as calculé? Combien ça va faire?
Ça devrait tourner autour de 35-40 000 là, à la fin de mes études universitaires. Parce que j'ai l'intention d'aller faire une maîtrise aussi, parce que j'étudie pour étudier et non pour nécessairement me spécialiser dans un certain domaine pour avoir un emploi. Fait que ça va monter haut, là.
J'ai l'impression que tu vas t'en trouver à être un oiseau rare, à étudier la philosophie. On voit que la hausse des frais, ça a une influence sur le choix des domaines d'études. Puis la philosophie, c'est un des domaines qui va en souffrir le plus.
Oui, effectivement. Les domaines qui sont le plus fréquentés, c'est toujours des domaines techniques ou des domaines justement pour se spécialiser dans un certain emploi. Parce que l'éducation aujourd'hui, c'est plus pour nécessairement éduquer les gens. C'est vraiment pour construire des petits robots qui vont travailler. C'est plus pour éduquer la population. On veut un peuple ignorant, mais qui va travailler sans nécessairement chialer. Puis c'est ça qu'on est en train de faire de plus en plus. Puis je crois qu'avec avec les hausses de frais de scolarité, ben, ça va être encore pire.
Je suis en compagnie d'Olivier, coordonnateur de l'assaut étudiante de Garneau.
Mais aujourd'hui, c'est le début des moyens de pression. La hausse a été annoncée officiellement, c'est 1 625 $ par session. Donc, le gouvernement Charest a affirmé qu'il y avait un désir de priver les étudiants de l'accessibilité aux études. Donc, comme plusieurs étudiants sont solidaires à la cause des plus démunis, on a une trentaine d'étudiants qui sont venus ici pour faire manifester leur désappointement au complexe G.
OK. Saint-Étienne, qui est une sorte de contestation du budget en général, pas juste des hausses de frais, là, tu parles vraiment là, de toutes les mesures dans le fond du budget régressif.
Bien, nous, on est, au niveau de l'association étudiante, on est particulièrement sensible à la situation des étudiants démunis, mais on est sensible aussi à tous les gens qui sont démunis, parce que le budget en ce moment, ce qu'il cherche à faire, c'est à se rapprocher d'une logique libérale, mais extrêmement libérale, qui se rapproche un petit peu des budgets qu'on pourrait voir au niveau américain, qui ne serait pas très surprenant. Et aux États-Unis, on ne croit pas que c'est un modèle à imiter. C'est un modèle qui encourage les inéquités sociales et qui, à la naissance, te catégorise et limite tes chances. Nous, on souhaite essayer de développer un autre point de vue, un autre...
C'est ça, qu'est-ce que vous prenez à la place?
Nous, on croit que la solution, ce n'est pas de faire une coupure, c'est de favoriser l'accessibilité aux services sociaux, c'est de faciliter la possibilité que tout le monde naisse avec une chance égale, que tout le monde puisse avoir la carrière, mais la vie qu'il désire, et d'avoir les chances de la compléter et de la rendre effective.
Et votre position, au point de vue des hausses de frais, c'est-tu le gel, c'est-tu la gratuité?
Dans un monde idéal, on aimerait bien la gratuité. En ce moment, ce qu'on réclame, c'est le gel.
Puis là, aujourd'hui, CETEN, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues? Est-ce que vous allez vous arrêter là?
Il y a une manifestation le 31 mars à Montréal. Il y a d'autres actions qui vont arriver au niveau ponctuel. En ce moment, comme je disais tantôt, c'est un début. On a commencé avec le 6 décembre à amener une mobilisation étudiante. C'est juste un début. Comme on peut voir, il y a des actions qui se déroulent un peu partout. On essaye de faire notre part, puis c'est un grand mouvement qui est en route. Puis on a souvent tendance, surtout dans la région de Québec, à condamner la gauche, à dire la bande de sales gauchistes. Sauf que la réalité, c'est que si on regarde bien, les gens de la gauche, ce qui s'intéresse, c'est le mieux-être commun. Je regarde dans notre groupe d'étudiants, on a plusieurs étudiants qui vont rentrer sans aucune difficulté en médecine. Il y en a qui sont rentrés déjà en médecine. Il y en a qui vont rentrer au niveau de la polytechnique, qui vont avoir des salaires excessivement impressionnants et que ça serait pas une problématique. Mais ces gens-là sont sensibles à la situation de tous ces gens qui sont démunis, qui pourront pas avoir accès.
On imagine le boucan d'enfer dans le hall du complexe G. C'était jeudi dernier, c'était essentiellement des étudiants de Garneau avec quelques amis de Limoilou et Lévis-Lauzon et une ou deux personnes de l'Université Laval, d'anciens étudiants de Garneau, j'ai bien compris.
Et quelques personnes du milieu communautaire.
Oui, des joyeux lurons de la coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics à laquelle justement participe l'association étudiante du Cégep. François-Xavier Garneau.
Et le collectif anarchiste La Nuit.
Et le collectif anarchiste La Nuit, évidemment, qui vous a pendu ce joyeux reportage. Donc, comme on le soulignait, comme le soulignait le coordonnateur de l'association étudiante, Olivier Grondin, c'est ça, hein? C'est Olivier Grondin. Donc, il va y avoir une manifestation à Montréal le 31 mars. Ça, c'est demain. Puis c'est ça, ça commence à... Donc, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Alors, l'AC, dans sa grande perspicacité, a compris que faire sortir les étudiants un 31 mars, c'était pas simple, parce qu'on était de plus en plus avancé dans la session, puis que si on voulait être sûr qu'ils sortent massivement, on était soumis à prendre des votes de grève. Alors, il y a eu effectivement des votes de grève qui se sont pris dans plusieurs associations étudiantes. Aux dernières nouvelles, le dernier décompte de l'AC, on parlait de 60 000 étudiants en grève le jeudi 31 mars. Évidemment, il n'y aura pas 60 000 personnes dans les rues, mais ça va permettre à peut-être 10, 12, 15 000 personnes de descendre. Écoute, heureusement qu'il y a l'UQAM, 6 facultés sur 7 seront en grève. D'ailleurs, il y avait une action aujourd'hui, ce midi, pour lancer la mobilisation à l'UQAM. Je sais pas si vous connaissez un peu là, les l'UQAM au centre-ville de Montréal. Là, il y a le pavillon Judith Jasmin, puis une espèce de grand agora, un hall où est-ce que en fait tous les étages finalement donnent là, puis ça donne une espèce d'immense puits de lumière. Alors quand finalement ils se sont ramassés à 350 militants étudiants de l'UQAM autour de la place. Et quand un des étudiants a lancé finalement un avion rouge, ils ont tous lancé des avions de papier blanc, c'était de toute beauté, pour souligner l'envol de la lutte contre la hausse des frais de scolarité à l'UQAM. Et donc, ils vont être dans la rue demain massivement.
T'es-tu en train de dire qu'il y a une vidéo de ça sur YouTube?
Il y a une vidéo de ça sur YouTube et on va même avoir un extrait sonore dans un instant, mon homme. On est technologique, on ne l'est pas. Hein.
Mais là, tu parles de l'UQAM, là, je te lance une question dans les pattes. Je ne sais pas si tu ne vas pas en répondre, mais à l'Université Laval, comment ça va?
Laval, il y avait 3 votes de grève. Il y a 2 associations départementales qui ont effectivement voté la grève. Si je ne me trompe pas, c'est philosophie pré-graduée et anthropologie ou travail social, service social. En tout cas, bref, il y a eu quelques votes de grève. Il y a quelques associations là, en dehors de l'UQAM. Il y a 2 grosses associations étudiantes universitaires. Ouais, grosses, c'est relatif. Là. L'Université du Québec à Trois-Rivières qui ont voté pour la grève et l'Association de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Puis sinon, il y a plusieurs petites associations départementales qui ont voté. Beaucoup d'associations étudiantes collégiales. Moi, ce que j'aimerais souligner dans tout ça, c'est que souvent, si on se fie juste à la rue, on a l'impression que l'AC est plus grosse que la FEC et la FERC, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Dans les faits, la FEC et la FERC en brigade plus d'associations étudiantes que l'AC. L'AC est le groupe 45 000 membres. Là, ils organisent une manifestation à Montréal sur leur propre base. Ça va être la première grande manifestation de masse contre la hausse des frais de scolarité. Ils annoncent déjà 60 000 étudiants en grève. C'est donc dire qu'il y a un 20-25 000 étudiants qui sont pas membres de l'AC qui vont être en grève. Puis là, on parle pas non plus des associations étudiantes comme Garneau, par exemple, qui vont monter à Montréal.
Qui est une nation indépendante.
Qui est une nation indépendante. Beaucoup d'associations étudiantes indépendantes qui vont monter à Montréal sans nécessairement avoir de mandat de grève. Donc, moi, ce que je me dis, c'est bon, c'est le fun, ils ont de la drive, ils réussissent à mobiliser dans la rue. Par contre, pour réussir à aboutir, il faut aussi qu'ils soient capables institutionnellement de faire le poids face à la FEC et à la FERC. Puis, à un moment donné, je crois que, comme dans tous les mouvements sociaux, il va falloir se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour renforcer la tendance syndicale de combat? Il s'agit pas juste d'aller manifester avec eux, il s'agit pas juste de suivre leur mot d'ordre. À un moment donné, il faut aussi se mouiller la chemise, comme a fait un candidat conservateur récemment. Donc, voilà, tu disais, il faut laisser la parole aux étudiants. L'AC est parti sur une chire, un trip assez intéressant. Ils ont rassemblé des... Ben, intéressant, toute chose étant relative par ailleurs. Ils ont rassemblé des étudiants d'un peu partout, puis ils sont mis ensemble pour voir est-ce qu'on peut pas faire des vidéos pour essayer de sensibiliser nos collègues et tout.
C'est assez simple comme vidéo, là. C'est comme un spoken word. C'est quelqu'un qui parle devant une caméra.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est dans une société qui est dominée par le spot publicitaire, c'est peut-être pas mauvais non plus. Puis c'est ça, il y en avait une un peu idéaliste qui regroupait presque tous les clichés de l'étudiante de gauche. Là, il y en a un autre qui regroupe un autre gang de clichés. Mais bon, bref, j'essaie de mixer l'action à l'UQAM avec Mathieu qui dit qu'il est contre la hausse des frais de scolarité. Alors, c'est la parole à un militant, j'imagine qu'il est du comité de mobilisation de l'UQAM.
Ouais, mais il dit d'ailleurs.
Oui, il dit qu'il est dans le comité de mobilisation, il dit pas où. Je crois que c'est à l'UQAM. En tout cas, bref, toujours est-il que j'imagine que c'est une synthèse de ce que plusieurs personnes pensent. C'est ça. Mais en tout cas, bref, sur les ondes de voix de fait, à Sequoia, la parole à un militant étudiant.
Là, bientôt, il va y avoir un avion rouge qui va comme tomber, on ne sait pas trop où. Et on va avoir une milliers d'avions blancs. Le slogan de l'avion rouge.
C'est pour ça que je m'implique dans le comité de mobilisation. Étant sur les prêts et bourses, je ne vis vraiment pas dans les gros luxe, puis je suis déjà endetté jusqu'au cou. Ma famille est pauvre, ne peut donc pas m'aider financièrement. J'ai eu un choix à faire. M'endetter lourdement ou ne pas étudier du tout. D'une façon ou d'une autre, je pars désavantagé. En plus, on me reproche de ne pas travailler assez, d'en changer de programme en cours de route. Je trouve ça franchement dégueulasse. Je l'affirme haut et fort, les services essentiels au développement d'une société, tels que la santé, l'éducation, le transport, devraient être desservis gratuitement. Comme ça, tout le monde commencerait sur un même pied d'égalité. Quand j'entends les experts comptables me dire qu'il faut absolument hausser les frais de scolarité pour avoir une éducation de qualité, que chacun et chacune doit faire leur part, ça me fait capoter. À ma connaissance, les banques font des profits records. Les grandes entreprises repartent sans cesse leurs impôts en plus d'accumuler les subventions et l'évasion fiscale va bon train. Au final, j'aurais payé l'équivalent de mes frais de scolarité simplement en intérêt sur mon prêt étudiant. À qui profite le plus une hausse des frais de scolarité? Aux universités ou bien aux banques? Oui, la droite est partout dans les médias, martèle sans cesse. On peut plus vivre ainsi, qu'il faut réduire les dépenses, qu'on s'endette, qu'il faut sabrer dans les services. C'en est assez cette vision élitiste de la société qui réduit l'éducation à une marchandise et la société à un vulgaire calcul. Il y a des gens qui changent le monde, qui luttent, contestent, s'organisent, se solidarisent. Je fais partie du nombre. Le 31 mars prochain, rendez-vous dans la rue pour dénoncer les politiques économiques de droite, pour contrer le budget et contrer la hausse des frais de scolarité.
Et donc, voilà, c'était le son d'une vidéo d'autopromotion de l'AC mixée avec une action, donc, à l'UQAM. Évidemment, des actions, il va en avoir d'autres pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller le 31 mars, donc jeudi à Montréal. Lundi, le 4 avril, il va y avoir un rassemblement qui est organisé par la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, l'antenne régionale de Québec-Chaudière-Appalaches, donc qui va avoir lieu à Québec, qui va regrouper des étudiants, des groupes populaires, des syndicats, tout ça, devant le bureau du ministre de la Santé, Yves Bolduc, donc son bureau de comté au 1040 Belvédère. On vous convie à un 4 à 7. On va peut-être en reparler d'ici la fin de l'émission. En tout cas, ça va être sur notre blog à un moment donné. Mais donc, il va y avoir une petite mobilisation à Québec. Puis évidemment, il va y avoir d'autres actions. Il suffit de suivre ce que vos associations étudiantes, ce que vos groupes populaires font, parce que la colère contre le budget, même si on est en période d'élection fédérale, n'est pas encore retombée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent les libéraux? Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent les conservateurs? Qu'est-ce qu'ils veulent tout ce beau monde-là? Ils veulent qu'on travaille, qu'on sue, qu'on leur rapporte du fric. Puis, ben, coudonc, moi, je suis allé chercher une chanson. C'est Zick Not Bombs qui m'a fait découvrir ça. Zick Not Bombs, une équipe de DJ endiablés qui sévit à la JT une fois par mois et qui va sévir à la salle multi le 8 avril pour le gala du 30e du Répank. Donc, qui m'a fait découvrir, je suis incapable de le prononcer, je crois que c'est Iri Revolt ou quelque chose comme ça. C'est un band franco-allemand sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Travaillez!
Les matins très tôt, le bus arrive pour faire chier. Après courir au métro, à la main gauche le journal, la main droite le café emporté dans le métro, rester debout. Le journal raconte des choses passées, la vie quotidienne est plus vite que nous. Enfin arrivé, il y a assez d'affaires à faire, les temps de commencer, du temps de jouer assez.
Et voilà, de retour à Voix de Fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On apprend à l'instant que le comité d'accueil du Frappru, ben c'est fini! Il est reparti un peu, fait que les militants sont retournés dans leur quartier populaire de Montréal et ont déserté de l'art des Ormeaux. Et c'est maintenant l'heure de nos nouvelles internationales.
C'est notre gros bloc de nouvelles internationales. Premièrement, c'est Walmart qui se défend contre un gigantesque cours collectif. C'est la devoir, selon Associated Press. C'est la course suprême des États-Unis qui va se plonger à partir d'aujourd'hui. Hier, en fait, le 29, ils vont se pencher sur la validité d'une plainte en nom collectif qui est susceptible d'inclure des centaines de milliers d'employés du groupe pour discrimination sexuelle. Si c'est. Puis la Cour suprême doit décider si un procès peut avoir lieu sous la forme d'un cours collectif susceptible de réunir 500 000 à 1,6 million de femmes selon diverses estimations. Ça, c'est à l'origine de l'affaire, c'est une plainte qui a été déposée en 2001 qui fait depuis l'objet d'un bras de fer entre les Villiers et Walmart. C'est Christine Kwanowski, pour ceux qui je pense comme il faut, qui est employée par deux magasins de Walmart au Missouri en Californie qui a fait avoir été victime de discrimination. Selon elle, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes chez Walmart et les patrons ne demandent pas aux hommes, comme c'est déjà facile, de se faire belle ou de rafraîchir leur maquillage, bref, d'être des catins, dans le fond. Selon Brad Seligman, l'avocat qui a initié la poursuite il y a 10 ans, le salaire annuel moyen des employés de Walmart se situe à 13 000 $, soit 1 100 de moins que le collègue masculin lorsque les procédures ont été entamées. Puis c'est quand même, parce que j'ai lu l'article tantôt, puis aussitôt qu'à à minute où c'est qu'ils ont déposé la plainte, les employés féminines, ils ont été promus, tu sais. Comme belle coïncidence. Walmart contesté la poursuite à chaque occasion, a affirmé les procureurs, parce que c'est juste selon lui de la plus grande menace judiciaire de l'histoire de cette chaîne-là. L'entreprise a fait valoir qu'elle employait trop de femmes dans trop de postes différents à travers ses 3400 magasins américains pour qu'elle puisse se représenter collectivement devant un juge. Mais malgré ça, il y a quand même un juge et une cour d'appel de San Francisco qui ont déjà affirmé que recours collectif pouvait aller de l'avant. Les recours collectifs ont beaucoup plus de poids que les initiatives individuelles. Elles tentent de pousser les entreprises au règlement à l'amiable pour s'éviter une procédure judiciaire susceptible de les coûter très cher. Il y a John Coffey, qui est professeur de droit de l'Université de Columbia, qui estime que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Walmart dépendra de l'avenir des actions en non collectives ou discrimination au travail intentées en vertu de l'article 7 de la loi sur les droits civiques de 1964. Les poursuites engagées par des particuliers en vertu de l'article 7 sont trop coûteuses, souligne-t-il. Si la procédure était bloquée par les juges, il pourrait s'agir de la fin des recours collectifs dans le domaine du travail. Donc, on va espérer que ce tribunal-là américain va accepter d'accueillir dans le fond, de traiter cette plainte-là. C'est ça, puis la plaignante qui raconte qu'elle et beaucoup d'autres femmes ont été promues juste après le dépôt de la plainte. Elle est aujourd'hui directrice adjointe du département d'industrie de son magasin, mais elle affirme que la discrimination sexuelle a repris. Puis cette femme-là espère que ce long combat judiciaire obligera Walmart à reconnaître que ses employés ne sont pas autant valorisés que leurs collègues masculins et à s'assurer que des hommes et des femmes compétents sont promus, pas simplement des hommes. Donc, c'est un cas...
C'est ça, puis moi j'ai lu un article là-dessus sur le travail des femmes chez Walmart. Mmh. Il y a un des nouveaux cahiers du socialisme qui aborde cette question-là dans les rapports de sexe. Puis ils disent que non seulement les femmes en particulier sont très peu payées, les employés de Walmart, tu l'as dit, 13 000 $ en moyenne, mais en plus, Walmart essaie de rendre la normalité d'une horaire de travail à 28 heures semaine, ce qui fait que normalement, si on s'entend, c'est quoi? C'est 35 heures, 40 heures, une journée normale. Eux ils s'arrangent pour faire ça, la normalité, 28 heures. Ça fait que non seulement les employés sont mal payés, mais en plus, ils travaillent très peu, ils sont plus flexibles, et leur précarité là est immense. Puis ça permet d'avoir plein d'employés qui sont pas obligés de payer à des pour faire du temps supplémentaire, parce qu'il y en a plein qui travaillent 28 heures, fait qu'il y a toujours moyen de boucher des trous là, sans devoir payer des taux horaires.
Ça va être justement un dossier à suivre, parce que là, il y a plusieurs, il y a vraiment Clément anti-syndicat, anti-travail aux États-Unis, si on passe, on rappelle du cas de Wisconsin, justement, que la loi a passé, si je me trompe pas, non, mais en tout cas, faut checker ça. Dans un autre domaine, c'est l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE, qui déplore la mollesse du Canada par rapport à sa lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers. L'OCDE déplore notamment le caractère tout restrictif des lois canadiennes dans la matière, le manque de ressources accordées aux procureurs chargés des poursuites et la sentence bonbon imposée à la seule entreprise d'avoir été poursuivie et sanctionnée depuis la promulgation de la loi en 1999. C'est la seule compagnie qui avait été poursuivie et sanctionnée par rapport à Au sujet d'une convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans l'intégration commerciale internationale. Ça a été signé en 97, le traité qui rassemble actuellement 34 pays membres de l'OCDE, puis plus l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil et la Bulgarie. Ce traité-là prévoit qu'une personne ou une entreprise coupable de corruption d'un fonctionnaire à l'étranger puisse être poursuivie quand elle vient à son propre pays. Mais la seule compagnie qui avait été condamnée par rapport à ce traité-là, c'est une compagnie minière, c'est le groupe HydroClean, une entreprise albertaine liée au secteur de l'énergie, est accusée en 2003 d'avoir offert un pot de 20-30 000 $ à un agent des douanes américaines, mais ça en était finalement tiré qu'une amende de 25 000 $. Donc, juste ouais. 5 000 de différence, hein, dans le fond. Selon l'OCDE, on est loin des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives que les signataires de la convention avaient convenu d'imposer en cas d'infraction. De par le rapport, la loi canadienne dit pourtant qu'on peut, selon le cas, aller jusqu'à 5 ans de prison et ne fixe aucune limite à l'amende. L'OCDE permet de suivre avec attention les suites qui seront données à une autre poursuite intentée l'année dernière contre un ancien employé d'une entreprise de matériel de sécurité d'Ottawa, Cryptometrics, accusé de corruption en Inde, ainsi qu'à une vingtaine d'enquêtes en cours. On craint toutefois que les poursuites qui découleront de ces enquêtes soient compromises si le service des poursuites pénales du Canada ne se voit pas attribuer urgemment les ressources dont il a besoin pour entreprendre des procédures. Donc, ben parce que comme c'est là, parce que ça va être la grande priorité des conservateurs de mettre l'argent là-dedans. Plus c'est bien plus urgent de mettre l'argent dans les avions, toute la quête. Hein? Mais bon. L'OCDE accuse aussi le Canada d'essayer là, de réécrire la convention en disant qu'elle se limite au cas de corruption visant à réaliser un profit, ou encore que les processus d'enquête de poursuite ne doivent pas être influencés par des considérations d'intérêt économique national incorrect. En réalité, la convention ne dit nulle part que ces considérations puissent être correctes, rappelle les auteurs du rapport. Ok, il va falloir checker ça de très bon. Répète. Puis il y a aussi, c'est pas juste le Canada qui s'est fait taper sur les doigts par l'OCDE sur cette question-là. Il y a aussi la main qui s'est fait dire la semaine dernière qu'elle pouvait faire mieux en dépit de ses presque 70 personnes physiques et 6 entreprises poursuivies et sanctionnées. Il y a aussi le Royaume-Uni et les États-Unis qui avaient eu des. S'est fait parler, mais il va falloir checker ça aussi, là, parce que parti comme c'est là. Hein. Pas sûr que le Canada, c'est l'heure d'être la grande priorité. Dans un autre ordre d'idée, c'est le rapport d'Amnesty International qui fait état d'une baisse des exécutions capitales en 2010. Au moins 627 personnes ont été exécutées dans le monde en 2010, contre 714 l'année précédente, mais la Chine est soupçonnée d'en avoir mis à mort plusieurs milliers. Le total d'Amnesty publié dans son rapport annuel sur la peine de mort de l'organisation non gouvernementale réclame l'abolition ne comprend pas les chiffres de la Chine qui considère que c'est un secret d'État. Fait que dans le fond, il y aurait juste la Chine, le gouvernement chinois qui sait combien de personnes est tuées chaque année, mais pas sûr, il y a personne d'autre qui le sait.
Ils considèrent que c'est un secret d'État.
Oui. Puis le gouvernement.
Ils sont hâte, les Chinois, hein, tu sais, qui envoyaient la facture des coulis à l'exécution aux gens, enfin, à la famille des défunts. Là.
Oh là là.
Fait ça, c'est l'Allemagne.
Très fort.
Puis le gouvernement chinois, il exécuterait à lui ça davantage de personnes que le reste du monde, donc. Ça va se mettre dans ce coin-là.
C'est la propagande anticommuniste, c'est clair.
Au moins 23 pays ont fait usage de la peine capitale en 2010, soit 4 de plus qu'en 2009. Nombre de pays continuent de prononcer des peines de mort pour des affaires de drogue, des crimes économiques, des relations sexuelles entre adultes consentants et le blasphème. Ben, si on parle de relations sexuelles entre adultes consentants, il me semble que bien des pays arabes ou pays musulmans, je devrais dire que juste des femmes qui se font lapider parce qu'ils pensent. Qu'à, mettons, juste le soupçon d'adultère, c'est assez pour qu'il se fasse tuer. Bon. Pékin a enlevé 13 délits non violents de la liste des crimes passés de la peine de mort, mais il y en reste 55 qui ont rapporté des médias chinois. Donc, sur 527 exécutions recensées en 2010, 252 ont été pratiquées en Iran, 60 en Corée du Nord, 53 au Yémen, 46 aux États-Unis, 27 en Arabie Saoudite, 18 en Libye et 17 en Syrie.
Ah mon Dieu, attends, là, t'es en train de me dire. Les Américains sont en super bonne compagnie dans ce dossier-là?
Oui. Puis, je vous rappelle que l'Iran, la Libye puis la Syrie, là, j'en parle dans plus tard tantôt, mais c'est toutes des régions qui sont appuyées par par Hugo Chavez. Les condamnés à mort ont été pour la plupart décapités, électrocutés, passent du fusil ou subit une injection létale. Au moins 2024 peines de mort ont été prononcées dans 67 pays en 2010 et au moins 17 833 personnes étaient toujours sous le coup de ces condamnations dans le monde à la fin de l'année selon l'organisation. Il y a au Pakistan où le premier ministre Yusuf Raza Gilani a annoncé en 2008 que tous les peines de mort seraient commuées en prison à perpétuité. 365 personnes étaient condamnées à mort et quelques 800 000 prisonniers sont encore menacés par une exécution, puis sont plus de 3 200 dans ce cas aux États-Unis. Donc, Alors, dans le fond, c'est ça. Il y a 3 200 personnes qui sont dans le couvert de la mort aux États-Unis et qui attendent une exécution. L'organisation estime que la tendance dans le monde est à l'abolition de la peine de mort. Depuis 2001, le nombre de pays ayant adopté l'abolition dans les textes ou dans la pratique est passé de 108 à 139. L'année dernière, le Gabon a supprimé la peine de mort dans son arsenal juridique. Même chose pour le Liban, le Mali, la Mongolie, la Corée du Sud ont eu la possibilité de faire de même. Donc,
mais les États-Unis continuent.
Oui, exactement. Justement, en parlant de la peine de mort...
Ben, il y a encore des États aux États-Unis qui l'ont retiré récemment.
Oui, les Noirs, hein, si je ne me trompe pas.
Je ne sais pas lequel, là, mais okay. Ça arrive encore une fois de temps en temps.
Oui. En parlant de peine de mort aux États-Unis, c'est Troy Davis, un condamné à mort qui est de rasseoir, mais un condamné noir américain dont la culpabilité est mise en doute, va recevoir une nouvelle date d'exécution après que la Cour suprême ait rejeté lundi ce dernier recours pour prouver son innocence. Un type de 42 ans, donc 20 dans le couloir de la mort de Géorgie. Dans le fond, il est rentré à 22 ans, puis il est rendu à 42, puis il est encore là. Troy Davis est présenté par de nombreuses personnalités comme le prototype du noir jeté innocent, jeté dans la machine infernale de justice raciste du sud des États-Unis, jusqu'à payer de sa vie pour la mère d'un policier blanc. Fait passer au cas de Mia Boudjamar, dans le fond, c'est la même affaire, là. Le cas de Mia Boudjamar, lui, il pouvait pas avoir de nouveaux procès, puis ils ont commué ça en prenne de prison à vie, mais il est encore en prison. Il semble que le système judiciaire se sente très à l'aise pour exécuter quelqu'un lorsqu'il subsiste des doutes sur sa culpabilité. Typiquement réagi Laura Moy, directrice de la lutte contre la peine de mort chez MC International. Il serait impossible aujourd'hui pour un juge de déclarer Troy Davis coupable avec les éléments présents dans le dossier, a été déclaré à l'agence France-Presse. Une date d'exécution pourrait être fixée dans les deux semaines à venir, mais l'exécution mortelle pourrait être repoussée. L'État de Géorgie, comme d'autres aux États-Unis, est en rupture de stock de l'anesthésie utilisée pour endormir les condamnés avant d'administrer les produits mortels. C'est en mi-mars, la police en tira que c'était tout le stock de l'anesthésie thiopental de Géorgie au motif de la provenance douteuse, interrompant de fait toute exécution. Donc, ils disent pas, c'était-tu des personnes qui ont été exécutées avec ces produits-là avant qu'ils leur tirent? C'est pas... Là, dans le cas de Troy Davis, c'est ça, le comité des grâces peut encore épargner le condamné en commuant sa peine en prison à vie sans possibilité de sortie, dans le fond, ce qui est le cas de Mia Boudjamar actuellement. L'affaire remonte à 1989, lors d'une bagarre sur le parking de fast-food de Savannah. Un jeune policier, Mark McPhail, en repos, est intervenu dans une bagarre et avait reçu une balle mortelle. 9 témoins ont désigné à l'époque Troy Davis, alors âgé de 19 ans, comme l'auteur du coup de feu. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, aucune empreinte digitale ou ADN n'a été revue sur les lieux et les frais se sont déroulés dans le noir. Depuis, 7 témoins ont revenu de leur déclaration, dont certains ont désigné un autre tueur, mais ça, ça a l'air que c'est pas suffisant pour qu'il y ait une révision de son dossier ou de son procès. Bon, j'en parlais tantôt, c'est Hugo Chavez qui apporte son soutien à Bachar el-Assad, qui est président syrien, qui, là, en Syrie, sont confrontés à de violentes manifestations dans le climat actuel dans de nombreux pays arabes. Qui le qualifie de leader socialiste et de frère cible d'une nouvelle action de la signe impérialiste pour le renverser. Voilà qu'a commencé l'attaque contre la Syrie. Voilà qu'a commencé des nouvelles manifestations prédominantement pacifiques liées à des morts, a déclaré Chavez au cours d'une cérémonie commémorant sa sortie de prison il y a 17 ans. Et voilà qu'ils accusent le président d'être en train de massacrer son propre peuple. Ensuite, bien les Américains qui veulent bombarder sa peuple pour le sauver. Le cas sinistre que celui de l'Empire a lancé le président vénézuélien qui est chef de la gauche radicale latino-américaine. Il a indiqué que s'est entretenu au téléphone avec M. Assad, qui est selon lui un président arabe, socialiste, humaniste, frère, d'une grande sensibilité humaine et qui n'est en aucune manière un extrémiste. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il parle de cette façon-là du dictateur iranien? Est-ce qu'il parle de la même affaire de même de Kadhafi?
Kadhafi, il y a beaucoup de sensibilité humaine. C'est ça que Dieudonné a dit.
Ben, il en a... Ouais, tu vois, genre... c'est... Parce que, tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont gardé la liste des activités qu'il va avoir en commémoration du sommet des Amériques à Québec, là, au mois d'avril.
J'ai pas regardé, non?
Dans un peu moins d'un mois, il va avoir une conférence qui vend justement le régime vénézuélien.
Ah non, mais ça, c'est sûr, là.
Erreurs comme ça, bravo, honnêtement, là.
Il y avait même, je pense, une conférence, je pense, aujourd'hui ou hier, là-dessus, à l'Université Laval. J'aurais aimé ça y aller, mais bon, ça aurait été le fun d'émettre des critiques, de soulever des questions.
Ouais, non, mais attends, il y a toujours eu une section de la gauche, là, peu importe laquelle, qui avait besoin de son modèle extérieur. T'sais. On a eu Chavez, avant ça, on a eu Lula, puis le budget participatif. On a eu Morales. Avant ça, il y a eu, à un moment donné, dans les années 70, ils se chicanaient quant à savoir si c'était la Chine, l'Albanie ou la Cambodge. Avant ça, il y a eu l'RSS et tout. Donc, comme... On a besoin d'avoir un modèle. C'est plate, mais c'est
quand
ça.
Quand t'es pas capable de former toi-même ta pensée politique, en tout cas. Ce même cas de figure, on provoque des conflits violents et sanglants dans un pays pour ensuite y intervenir, s'emparer des ressources naturelles, transformer en colonies, éclairer M. Chavez. En Syrie, des manifestations anti-gouvernementales sans précédent se poursuivent. Ni les concessions faites par les autorités, ni la répression qui ont voulu être plus de 120 morts selon des organisations de défense des droits de l'homme, les ont arrêtés jusqu'à présent, puis Chavez, il dit qu'il n'y a rien, là. Hello! En tout cas. Le Venezuela et la Syrie qui avaient développé leur relation au cours des dernières années, M. Chavez s'était rendu en octobre à Damas pour signer une série d'accords de coopération dans le domaine de l'énergie, du commerce et de l'agriculture. Donc, tenez-le vos portiers, Chavez appuie le dictateur sanguinaire.
Et voilà. On s'en va en musique. Pour digérer tout ça, on va écouter quelque chose de joyeux. Ça a rapport avec... On n'aura pas écouté la tune de Chumbawamba. Un peu longue. On va en écouter une autre plus courte. C'est tiré d'un album que j'ai découvert dans la discothèque de Sequoia. Ça s'appelle Si on est ensemble, 8 mars. C'est de la musique d'EP féministe.
Ah, t'as mis ça sur le blog en plus, hein? Ouais, j'ai vu ça tantôt.
Alors, la pièce titre s'intitule La fête. Oh là là!
Instead.
This is it.
Et on va se quitter sur Chumbawamba. Une vieille chanson, 1987, deuxième album du groupe. C'était dans le cadre d'un projet d'éducation policière, d'agitation propagande, on ne sait pas trop, sur les élections. Alors, il y avait la totale du discours anarchiste, de la critique électorale jusqu'à la présentation du projet de société. Comme on est en campagne électorale, comme les débats qui ont eu cours en ce moment sont particulièrement emmerdants. Parce qu'en tout, Pinot 2, là, Nation Bleue, Parlons Québec...
C'est toute la même pile de marde.
C'est toute la même pile de marde. Et le problème reste entier parce que à la question sociale, il n'y a pas de solution nationale. Donc, c'est ça. Moi, je m'amuse à faire un florilège de citations que je trouve pertinentes dans la campagne électorale.
Oui, puis il y a sûrement des belles affiches et des beaux stickers qui s'en viennent à ce sujet-là.
Mais oui, il y a Chartrand, par exemple, quand sa maman lui demandait... Pour qui qu'on vote pendant les élections fédérales? Il répondait, mais maman, tous ces gens-là te veulent du bien, tu mets une croix devant chacun. Et ben, c'est la même chose aussi, par exemple, Anna Arendt qui disait politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal, ça c'est un argument qui s'adresse aux voteurs stratégiques, a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Et on se laisse là-dessus. Avec la belle agitation propagande de Chumbawamba. Vous écoutiez Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Bonne semaine.